Il faut savoir que la culture pop, ça a toujours été pour moi un dada. C'est drôle parce qu'on en parlait avec mes collègues de travail. On a des ambiances musicales, tout le monde. Il y en a un, c'est la scène country, la scène alternative. Dans mon bureau, c'est la scène pop. Mais en fait, déjà enfant, quand ma mère m'interdisait d'écouter du Madonna parce qu'elle avait osé prendre le nom de la Madone, je me disais qu'il y avait une anguille sous roche. Je me disais que justement, c'était pas mal badass de sa part. Mais ma réflexion s'arrêtait là. Heureusement, avec les années, ben, j'en suis venue à peaufiner cette réflexion, à mettre des mots sur ce sentiment de « il y a quelque chose de plus ». Et c'est ce dont j'aimerais discuter avec vous ce soir. Je voudrais analyser un objet culturel contemporain particulier afin de déterminer comment parfois ces objets soi-disant aliénants deviennent davantage que de simples espaces de divertissement et comment parfois, à même le spectacle et sa démesure, peut s'ouvrir des brèches, des espaces de déconstruction qui permettent une résistance, ou du moins qui permettent l'apparition de ce quelque chose de plus. Bon, il y avait quand même un hic parce que je suis invitée par Salon Double, vous l'aurez compris, l'Observatoire de la littérature contemporaine. Et là, je m'en viens vous parler d'un truc qui date de 2004. Mais bon, après, je me suis dit, le contemporain, c'est quand même vaste. Et en plus, c'est une série télé, donc c'est pas du tout littéraire, mais ils m'ont dit que je serais pas disqualifiée, donc c'est correct. On continue. J'ai aussi... faire amende honorable auprès de mes anciennes collègues Luciole et Amartine parce que c'est quand même une reprise d'une réflexion déjà amorcée avec elles l'année passée. Mais je me permets quand même ce détour vieux d'une dizaine d'années parce que pour ceux et celles qui me connaissent, il y en a quelques-uns ici qui me connaissent depuis assez longtemps, ils savent qu'en 2004, ben, j'ai vécu une épiphanie télévisuelle. Donc, voyez-vous, j'ai rencontré les filles de The L Word à la sortie du secondaire en catimini sur mon ordinateur portable, via les DVD gravés qu'un ami m'envoyait religieusement par la poste après les avoir lui-même visionnés. Merci Vincent d'avoir partagé cette contrebande avec moi. J'étais complètement fascinée par ces femmes. J'aimais les voir s'embrasser, j'aimais les voir s'aimer, j'aimais les voir se détester. J'aimais le sentiment de franche camaraderie qui les enveloppait. Ces belles filles minces et blanches du West LA. Bien sûr, comme tout le monde qui a un peu suivi cette série, j'avais mes préférées. Hein, tout le monde, celle qui me faisait rire, celle qui me faisait pleurer, celle qu'on aimait détester. Et comme j'allais le réaliser bien vite, en fait, je n'étais que la pointe de l'iceberg d'un phénomène quasi mondial. Autour de moi, des milliers de filles jouaient à deviner qui de Shane, Alice ou Dana était leur préférée. Quantité de filles, lesbiennes, queer, straight, peu importe, tombaient amoureuses de Shane. Je veux dire, toutes mes colocataires ont écouté The L Word en disant « moi, les filles, ça ne m'intéresse pas ». Mais si c'était Shane. Donc, c'est vraiment drôle. Elle devenait le fantasme ultime de liberté. Sa coiffure, son style vestimentaire était à la mode. Combien de fois je me suis promenée en village en entendant « hey, ça, c'est une Shane ». Même chose, une amie disait que si on lui redemandait une fois en date « quelle fille de The L Word es-tu », elle faisait un meurtre. Donc, c'est vraiment un phénomène constant qui est parti avec la mise en onde en 2004. Mais c'est avec surprise ensuite que j'ai réalisé qu'un vent de controverse avait entouré la mise en onde de la série, donc en 2004. Moi, je l'avais aimée inconditionnellement, sans me poser plus de questions. Alors d'un côté, on encensait la série pour avoir enfin placé des problématiques et des personnages lesbiennes à l'avant-plan. D'ailleurs, je fais une petite aparté parce que c'est quand même un sujet qui me tient à cœur. Au cinéma comme à la télé, les représentations offertes de l'homosexualité féminine s'avèrent un peu, très, beaucoup pauvres. Force est de constater que l'homosexualité féminine est encore représentée selon les mêmes tropes narratifs identitaires, malgré les années accumulées et malgré le supposé climat d'acceptation de notre société contemporaine occidentale. À regarder la production cinématographique des dernières années, on croirait que les lesbiennes se résument à des adolescentes torturées par une sexualité trouble, à des femmes hétérosexuelles soudain perturbées par une inconnue ou une meilleure amie un peu trop entreprenante, ou encore à des femmes dont l'érotisme ambigu appelle aux multiples interprétations. Et à la télévision, les personnages lesbiens demeurent majoritairement des seconds rôles dont l'évolution psychologique se résume à leur coming out. Bon, je tourne un peu les coins ronds et je résume, mais je réalise qu'à chaque fois que je veux m'opposer moi-même à ce constat, je me retrouve à tirer toutes mes forces sur l'exception afin de la faire devenir la règle. La lesbienne est tenue confortablement dans un désert représentationnel, rien qui ne permette aux mentalités d'évoluer pour se désenclaver des stéréotypes dominants. Bon, il semblerait quand même que les choses tendent à changer. On a vu The Kids Are Alright, qui a eu quand même une certaine reconnaissance et au box-office et par l'Académie. Également, il y a quand même des séries télé maintenant qui présentent des personnages lesbiens qui existent et se constituent au-delà de leur orientation sexuelle. Par exemple, là, tout récemment, dans Orange is the New Black, ou sinon, plus près de nous, il y a quand même Flavie dans Mémoire vive et un couple formé par Dominique et Anaïs dans Toute la vérité. Je ne commente pas tant la qualité des séries ou quoi que ce soit, mais quand même, la présence de ces personnages-là sont notoires. Ce qui me ramène à The L Word, qui se pose, à mon sens, comme pionnière en la matière. On a voulu donner une suite à Queer as Folk, à Showtime, et deux femmes, lesbiennes dans l'occurrence, ont proposé à la communauté extrêmement masculine d'Hollywood de produire une série mettant en scène une communauté de lesbiennes. Et ça, peu importe les raisons commerciales ou marchandes derrière l'idée, ce n'est pas un geste anodin. À l'image de ce geste, la nouvelle de la série s'est répandue comme une traînée de poudre dans les communautés lesbiennes et plus largement queer nord-américaines. La série était attendue et de pied ferme, mais au moment de la diffusion, les critiques ont fusé de partout. On a reproché à la série de faire des compromis pour attirer et fidéliser une audience diversifiée, donc autant d'hommes que de femmes, hétérosexuels, homosexuels. On en a décrié l'hétéronormativité, des femmes conventionnellement belles, minces, principalement blanches, bourgeoises, perpétuant l'idéal hégémonique d'une beauté et de la féminité. Mais surtout, on a dénoncé la prédominance d'une esthétique se rapprochant d'une pornographie du soft, donc quelque chose qui rappelle le catalogue de lingerie féminine, par exemple. Et aussi quelque chose participant d'un chic lesbien. Donc, c'est beau et c'est bien une lesbienne si c'est très féminin, tellement féminin qu'on peut ignorer son homosexualité. Or, et c'est le cœur de mon intervention aujourd'hui, malgré toutes ces critiques, je continue de croire que The L Word est plus politique qu'on ne le croit. Dans un article de 2004 qui réfléchit à la place des lesbiennes dans la télévision, Stacey DeRasmo va souligner une importante nuance sur la question de la visibilité. Je vais prendre une gorgée parce que c'est en anglais. Alors, elle dit « Visibility is a tricky thing. Is someone visible when you can't point her out in a crowd or when you understand what her life feels like to be her? » Et je crois que la série The L Word, malgré tout ce que ses détracteurs en ont dit, trouve son équilibre dans cette subtile oscillation. Elle ne pointe pas du doigt les femmes qu'elle met en scène. Au contraire, elle invite le téléspectateur à aller à leur rencontre. En fait, pour moi, ce soir, mon hypothèse sera que la série réussit à queerifier le regard de son téléspectateur moyen, qu'il soit homme, femme, hétérosexuel ou homosexuel, et que ce faisant, la série se positionne d'abord et avant tout comme une série féministe, dénonçant, via des problématiques plus largement queer, l'omniprésence et l'omnipotence du regard masculin sur les femmes dans la culture pop. Bon. Avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je vais régler son cas au mot « queer ». Pour ce soir, là, je n'explorerai pas les multiples fluctuations et nuances comprises dans le mot « queer ». On va plutôt rester à sa définition la plus inclusive, la plus populaire, c'est-à-dire comme une identité pensée au-delà des cadres normatifs du genre et de la sexualité, permettant d'échapper à une conception binaire des sexes et de la sexualité. Donc, de retour à The L Word. Pour résumer mon propos autrement, je crois que lorsque nous regardons The L Word, nous ne regardons pas vraiment ce que nous croyons regarder. Et je vais vous montrer comment, dans la série, on parvient à observer divers dispositifs, ou plutôt contre-dispositifs, qui sont mis en place pour justement échapper à ces stéréotypes. Bon, alors je vais faire un petit détour théorique, très court, pour vous expliquer ce que j'entends par contre-dispositif. Donc ce soir, j'ai envie de parler avec Agamben, qui lui parle avec Foucault. Agamben définit le dispositif comme tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Donc, on pourrait dire que, conséquemment, l'univers se divise en deux catégories, les êtres vivants et les dispositifs. Compris ainsi, le dispositif dépasse alors bien vite les espaces physiques du pouvoir, tels que les prisons, les écoles, les milieux de travail. L'art, la philosophie, la littérature et pourquoi pas l'agriculture peuvent être des dispositifs dans la façon qu'ils ont de modeler le vivant. Aussi, le dispositif entraîne avant tout un processus de subjectivation. Il force l'être vivant à s'énoncer, à se définir au milieu de ses paramètres. Dès lors, la société dans laquelle nous vivons devient une gigantesque accumulation et prolifération de dispositifs. Et conséquemment, les mentalités et les idéologies qui la construisent découlent de ces mêmes dispositifs. Il devient alors primordial pour Agamben de trouver une stratégie adéquate pour leur résister. Selon lui, la solution se trouve dans ce qu'il appelle la profanation, c'est-à-dire dans la restitution à l'usage commun de ce qui a été saisi et séparé par les dispositifs. Et il me semble que c'est le pari que prend The L-Word, contrer les dispositifs hétéronormatifs et sexistes de notre société actuelle en les profanant, c'est-à-dire en se servant de leurs mécanismes pour mieux les mettre en lumière et les dénoncer. Il s'agit de se servir des forces de l'ennemi pour le terrasser, d'user de contre-dispositifs pour contrecarrer le dispositif. D'ailleurs, on va en parler très bientôt, la série déclenche cette mécanique dès le premier épisode dans la présentation du personnage de Jenny Schechter. Jenny sera celle qui devra être doublement profanée pour que nous puissions prendre conscience des dispositifs qui l'entourent. Par deux fois, dans la première et la dernière saison, Jenny sera plongée dans l'eau, telle une baptisée qui aspire à intégrer une communauté. Agamben affirme que ce qui a été séparé par le rite peut être restitué par le rite à la sphère profane. Dans The L-Word, il faudra le sacrifice de Jenny pour que s'achève la transfiguration du téléspectateur et que de simple voyeur, il aspire au titre d'initié. Bon, on va pas aller plus loin sans que je vous montre des extraits. J'ai fait un montage de deux moments du premier épisode, donc du pilote. Ils sont séparés par une courte scène, là, mais ils ont été très, 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 très commentés et critiqués. Je vous mets en contexte, vous allez rencontrer Jenny, donc, qui est une jeune fille du Midwest américain qui arrive à LA pour rejoindre son copain Tim. Et elle va se rendre compte que ses nouvelles voisines sont donc un couple de lesbiennes. Tu peux y aller. Y a-tu du son? Moi aussi. Mais ça se peut qu'il n'y ait pas de grand son là, là dans cette scène-là, dans ce moment-là. Ah, OK. Ben, je sais. Vraiment, je voulais mimer, c'est pas grave.
Si elle est fan de la série, il faudrait juste comme tu veux des
réponses. Ben, c'est ça, je me dis que c'est ça, total. L-Word Picture Show. Essaye, Amélie.
Next door.
Ben and Tina?
Yeah. Are they fucking with Tampa?
Yeah, they are.
Because I saw them having sex in their pool this afternoon.
No, I know, Ben and Dana.
But they don't have sex.
No, probably they do. It's just that. You sure you saw them getting down?
I saw them getting way down.
It's all right. Mm-hmm. Why don't you tell me about it?
Okay. There was this girl. Black hair. When she walks out, she takes off her clothes in like 2 seconds flat.
Yeah.
Yeah.
Like this?
I think it was a little bit faster.
Oh, really?
Yeah, I do.
I'll work on that.
Okay. And then there was this blonde girl who had these really beautiful breasts.
Oh, really?
I wasn't really watching that closely.
No, I think you were watching. Very closely. What did they do next?
The skinny one takes the blonde, vampy one. Backs her against the side of the pool. And then she begins to
Donc, ces deux scènes comprises et étudiées en parallèle me semblent porteuses de ce que Didier Huberman appelle ce qui apparaît malgré tout. Parlons d'abord du premier segment. Donc, vous avez vu, Jenny se retrouve témoin d'une scène de sexe entre Shane et une belle blonde. Troublée, elle hésite entre détourner le regard ou continuer à regarder. Cette scène en a hérité plus d'une, car après tout, le voyeur s'excitant en regardant deux femmes avoir des relations sexuelles est une représentation directe d'un trope de la pornographie hétérosexuelle masculine. Dans le second extrait, les choses ne sont guère plus brillantes. Jenny et son amoureux se retrouvent dans l'intimité de leur salon. Les lumières sont tamisées. La caméra passe plus près des corps que lors du segment précédent parce que, disons-le, il n'y a pas de gêne à montrer quelque chose qu'on est habitué de voir comme ça, la prédominance et la normalité du sexe hétérosexuel. Dans cet extrait intimiste, la scène de la piscine est rejouée entre Tim et Jenny. Vous l'avez vu, ils s'enlèvent des morceaux de vêtements au fur et à mesure de la narration, etc. Encore une fois, on se situe dans une hétéronormativité désespérante du couple hétérosexuel dans lequel l'homme est excité par le récit lesbien que lui fait sa partenaire. Réfléchi ainsi, il n'est pas étonnant que le pilote se soit attiré des critiques. Mais ces deux scènes font plus que bêtement reproduire des modèles hétéros. Elles s'emparent du stéréotype et s'en servent pour servir leurs propos, c'est-à-dire la diffusion d'un sexe plus queer. Regardons comment elles y arrivent. Dans le premier segment, ce n'est pas un homme qui regarde les deux femmes, évidemment. Contrairement au schéma pornographique reçu, c'est une femme, c'est Jenny. Et le spectateur, par les plans de caméra, adopte son regard. Nous sommes Jenny regardant par les lattes de la clôture. Et donc, par défaut, l'œil du spectateur se retrouve féminisé. Par cela, la série effectue un glissement très subtil pour ramener le spectateur hétérosexuel en dehors de sa zone de confiance et le forme, on pourrait dire, à considérer une sexualité queer comme envisageable. De plus, on va le découvrir, Jenny devient le mur porteur de tout le groupe. Elle sera au cœur des intrigues, des amours, des disputes. Elle deviendra le maître du jeu, en quelque sorte. Alors, le téléspectateur qui, dès le premier épisode, est convié à fondre son regard au sien, ne s'inscrira pas en porte-à-faux avec le reste de la série, mais plutôt en voyageur, traversant les vies de ses femmes sans les pointer du doigt, pour reprendre les mots de Darius Moe. Et dans le second segment, ce n'est pas Tim qui insiste, au fond, pour que le récit continue d'être élaboré, détaillé. C'est Jenny qui décrit les seins de l'amante de Shane, qui dit « Who had those beautiful breasts? » Mais ces mots ne sont pas au profit de Tim, puisque rapidement elle se reprend, gênée de ce qu'elle pourrait laisser paraître. Et dans une pantomime discrète, Jenny transforme Tim en Shane. Jenny est celle qui structure et dirige cet échange. Oui, l'excitation de Tim est hétéronormative. Rien à redire là-dessus. Mais ce que vit Jenny est d'un autre ordre. Oh, ça a baissé. Ce que vit Jenny est d'un autre ordre. Et je rappelle que le spectateur est en quelque sorte Jenny, en tout cas beaucoup plus que Tim, parce que vraiment rien n'est fait pour que l'identification aille en ce sens. Donc, Tim est excité par l'histoire elle-même, comme l'est l'homme hétéro qui regarde un film de porno lesbienne. Mais Jenny, elle, est excitée par l'apparence de ses corps féminins, par ses beautiful breasts, qu'elle a aperçus trop brièvement. Jenny, pour un moment, adopte une subjectivité plus queer. Elle se projette à la place de la blonde dans l'eau et elle veut les mains de Shane sur elle. Elle veut être initiée. Et donc, dans un article écrit sur la série, Candace Moore réfléchit à ces deux scènes, au parallélisme entre les deux, et elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit « Homosexuals have been raised reading texts, films, songs, soaps against the grain. By opening with queer sex, donc le premier extrait, and patterning heterosexual sex on it, la deuxième, the show presents a general version of the representational translation well known to queers, that of eroticizing a scenario without necessarily recognizing oneself as viable subject within it. » Donc, ce n'est pas innocemment que les deux productrices ont inséré les deux scènes dès le premier épisode. Il leur fallait, dès le début, montrer cette domination absolue du sexe hétérosexuel sur le sexe homosexuel. Ainsi, en plus de détourner les schèmes hétéronormatifs pour inviter le téléspectateur à adopter un regard plus queer, la série semble implicitement dire à son public « Voilà ce que c'est d'être moi ». C'est un acte d'ouverture, une invitation au voyage. Donc, j'ai l'impression que les deux scènes servent d'incipit au reste de la saison. La série commence avec la piscine, Jenny et son désir pour Shane, et elle finira exactement de la sorte, après que Jenny ait réussi à poser les mains de Shane sur elle. En effet, dans la dernière saison, elle entraînera Shane dans une histoire amoureuse complètement malsaine et se mettra à dos toutes ses amies. Elle passera de maître du jeu à paria, et la série se terminera par le meurtre ou le suicide, on nous laisse dans un certain flou artistique, de Jenny, morte noyée. La piscine, la même qui lui avait ouvert les portes d'un monde inconnu 6 saisons plus tôt, se refermera sur elle, la sacrifiant pour que sa profanation soit complétée. Donc Jenny a pénétré la communauté, elle l'a apprivoisée, elle est devenue l'une de ses membres, mais les dispositifs, tels que les comprend Agamben, ont eu raison d'elle, et pour qu'il ne ronge pas le reste du groupe de l'intérieur, Jenny doit être éliminée. Ainsi, la piscine deviendra le lieu initiatique, le seuil entre le profane et le sacré. Il faut savoir aussi que Jenny ne se mouillera, donc littéralement, que lorsqu'elle embrassera entièrement le désir qu'elle éprouve pour les femmes. Pour cela, il faut attendre la 2e saison. Elle a alors interrogé par son colocataire, Mark, vous allez le voir bientôt, qui occupe en quelque sorte la place de l'homme hétérosexuel parce que Tim part à la fin de la saison 1. Et questionnée par Mark, Jenny hésite à se définir. À la question inquisitrice « Are you gay? » Elle répond « No, I don't know. What do you think? » Or, vers la fin de cette saison, Jenny fait définitivement le saut. Elle n'attend plus qu'un homme la définisse. Elle plongera toute vêtue dans la piscine d'un gros yacht sur laquelle se déroule une croisière exclusivement lesbienne. Donc, le rite de l'eau permettra à Jenny d'intégrer une communauté, mais sera également celui qui l'en éjectera. Ce qui lui aura été donné par l'eau lui sera retiré de la même manière. Alors, comme ça, en observant le personnage de Jenny, on constate déjà combien The Onward se construit comme une fiction à multiples couches. La série inclut dans son fil narratif des scénarios familiers, donc les scènes entre Tim et Jenny, par exemple, ou alors la conception d'un enfant, le combat contre le cancer, afin d'explorer les réalités queer et d'illustrer plus largement les conséquences d'un regard normifié et exclusif sur la femme contemporaine, que celle-ci soit lesbienne ou non, finalement. Donc, pour le dire simplement, la série détourne les stéréotypes dont on l'accuse et les transforme en thèmes centraux. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le principal reproche adressé à la série était qu'elle reproduisait des schèmes pornographiques n'ayant rien à voir avec le quotidien des femmes homosexuelles. Bien sûr, la série va se positionner sur la question, en fond et en forme, durant plus d'un épisode. Outre le renversement bien particulier qu'on vient de voir dans les deux scènes de Jenny et Tim, un deuxième moment clé dans la série force le téléspectateur à se questionner sur le regard qu'il exerce sur la série, voyeur ou initié. Donc, comme je l'ai dit, au début de la 2e saison, Jenny et Shane deviennent colocataires. Elles ont besoin d'un 3e colocataire pour payer le loyer. Arrive Mark, le nouvel homme hétéro. C'est un réalisateur de films pornographiques à petit budget. Ce n'est pas un secret, les filles le savent, c'est correct. Lorsqu'il débute sa colocation, il devient fasciné par le monde lesbien qui l'entoure. J'ai envie de dire un peu à la manière du téléspectateur. Complètement obsédé par ses colocataires et leur mode de vie, il décide de tourner un documentaire sur la culture lesbienne. Mais malgré toutes ses bonnes intentions, le personnage est incapable de se défaire de ses envies de voyeur et se met à cacher des caméras dans toutes les pièces. C'est Jenny, bien sûr, qui en découvre l'existence. et qui n'est pas très satisfaite de la situation. Et éventuellement, elle va jeter Mark dehors et il va essayer de se racheter parce qu'il est complètement obsédé par Shane. Et donc, c'est sa confrontation avec Mark que je vais vous montrer maintenant. Ça devrait être...
I wish so much that there was something I could do.
No, I don't think there's anything that you can do. I think you did it.
When I moved in here, I was the type of guy who was capable of doing shit like this, but I'm not that guy anymore. I know that I've said it before, but you and Shane have made me a better man.
Oh, fuck off, Mark. It's not my job to make you a better man, and I don't give a shit if I've made you a better man. It's not a fucking woman's job to be consumed and invaded and spat out so that some fucking man can evolve.
It's not what I meant.
What the fuck are you talking about then, Mark? You give me one reason why you think that I should forgive you.
Because, Jenny, I made a big, big mistake. But from that, I have learned how difficult it is to be a woman.
Please.
Jenny! Hey! Look at this.
What are you doing?
Is this what you want?
No. What I want is for you to write fuck me on your chest. Write it. Do it! And then I want you to walk out that door and I want you to walk down the street. And anybody that wants to fuck you, say, sure, sure, no problem. And when they do, you have to say thank you very, very much. And make sure that you have a smile on your face. And then, you stupid fucking coward, you're gonna know what it feels like to be a woman.
Donc, encore une fois, The L Word nous montre la représentation d'un regard masculin dominant et omnipotent. Mark est celui qui entend tout et qui voit tout. Pire, on semble suggérer que ce geste est fait pour des raisons nobles et tout à fait justifiables. Tous les chemins sont bons pour arriver au meilleur documentaire. Mais bien vite, la vapeur se renverse, comme vous l'avez vu. Le téléspectateur est forcé de voir ce qu'un tel voyeurisme entraîne comme violence dans le contexte plus large de la société. Par les paroles et les gestes de Jenny, c'est toute l'oppression des femmes dans le monde patriarcal qui est décriée. Vous l'avez entendu comme moi lorsqu'elle conclut en disant « And then you fucking stupid coward, you'll know what it feels like to be a woman ». Donc, les gestes de Mark, son regard sur les femmes de son quotidien, sont une sorte de viol. Je trouve ça un peu d'actualité, j'écrivais ça, puis je pensais à l'horrible chose qu'avait écrit Gabrois et toute l'histoire qui avait entouré la publication de cette lettre. Et je me suis dit qu'il fallait tenir au mot viol, parce qu'il faut arrêter de le taire et de le masquer derrière d'autres plus gentils. Et donc, je vais vous citer de Virginie Despentes, parce que ça aide toujours à réaligner les chakras quand des gens comme M. Roy écrivent des choses. Donc, Despentes rappelle que quand les hommes mettent en scène des personnages de femmes, c'est rarement dans le but d'essayer de comprendre ce qu'elles vivent et ressentent en tant que femmes. C'est plutôt une façon de mettre en scène leur sensibilité d'homme dans un corps de femme. Et pour elle, c'est catégorique, la pornographie suit la même logique. Et malgré sa maladresse, qui attire tout de même une certaine sympathie du spectateur, là, quand on écoute la série, on se dit « Ah, mon Dieu ». En fait, il ne fait pas autrement. Il se défend en stipulant que grâce à son voyeurisme, il comprend les femmes maintenant. Pourtant, ce faisant, plutôt que de comprendre réellement qui sont et comment vivent ses colocataires, il ne fait que se projeter dans leur vie, et particulièrement, comme je disais, celle de Shane, qui va l'obséder complètement. Par cela, la série semble répondre directement à ses détracteurs qui l'accusent d'utiliser une représentation léchée et presque pornographique du sexe lesbien pour attirer un auditoire masculin et hétérosexuel. Davantage, la série nous rappelle que cette fois-ci, ce sont des femmes aux commandes de la caméra et du portefeuille de la production, et qu'elles entendent bien nous montrer les choses comme des femmes, pour une fois. Je vais maintenant vous lire une courte citation de La survivance des Lucioles de Duberman, parce que ce sont ces Lucioles qui ont donné l'éclairage qui manquait à ma réflexion lorsque je pensais à Madonna enfant. Donc, Lucioles que j'ai heureusement rencontrées grâce aux lectures recommandées par Martine, donc je leur en dois beaucoup à ces Lucioles et à Martine, donc merci bien. Et donc, Huberman écrit que le premier opérateur politique de protestation, de crise et de critique ou d'émancipation doit être appelé « image » en tant que ce qui se révèle capable de franchir l'horizon des constructions totalitaires. Il affirme que l'image est une apparition unique, précieuse, quand bien même elle n'est que fort peu de choses. Et à mon sens, The L Word est tapissé de ces images, de ces apparitions, de ces moments de clignotement. D'abord, par tous les actes de résistance à même les déconstructions des stéréotypes, comme ceux que nous avons vus, mais aussi et littéralement par l'utilisation que fait la série des arts visuels. L'un des personnages centrales, Beth, est commissaire au California Art Centers, le CAC. Par elle, mais ensuite par d'autres personnages comme la famille Peabody ou le merveilleux personnage de Jody, l'art visuel, particulièrement la peinture et la sculpture, occupe une place centrale dans la trame narrative, mais également à travers la trame visuelle, j'ai envie de dire, de la série. Ce que je veux dire, c'est que l'art et les problématiques qui lui sont propres sont d'abord convoquées plus classiquement, ça veut dire dans le récit, mais en plus de cette première strate, l'art est également exploité en trame de fond, sans explication ou mise en contexte, complètement omniprésent, qu'on commence à lui porter attention. Donc, je vais vous montrer le générique d'entrée parce que c'est ce qu'on voit tous les jours quand on écoute The L Word, mais c'est pas innocent ce qui a été mis dedans. Donc, tu peux montrer là, ça. Je l'ai coupé en deux, parce qu'il est quand même assez long. Donc, vous voyez, pendant que les noms défilent et que les personnages aboutissent dans une galerie d'art, et donc les œuvres qui y sont présentées ne sont pas fictives. Ce sont des photographies de Catherine Opie, une artiste des États-Unis qui fait de la photographie documentaire et dont le thème central est, quelle surprise, l'identité genrée et comment celle-ci se détermine par l'entourage. Donc, les photos présentées dans le générique, les moustachus, sont tirées d'une de ses premières expositions, « Being and Having », dans lesquelles l'artiste portrait des amies lesbiennes portant une moustache. Et commentant sa démarche, l'artiste souligne « My sitters are heavily pierced and tattooed lesbians from the alternative club scene who are in too challenging the typical image of lesbians. They don't want to be a man or to pass as men all the time. They just want to borrow male fantasies and play with them. » Et ce sont ces photographies qui se retrouvent dans le générique d'une série à qui on reproche, justement, de présenter une image normative de lesbienne. En outre, normative de femme, en fait, plutôt. Les auteurs de la série vont pas simplement se contenter d'insérer ces images dans le générique comme ça. Ces images sont précédées, vous l'avez vu, d'une série d'actions des personnages, se pouponnant, s'embrassant langoureusement, paradant dans leurs atours de gala, mettant en scène la mascarade d'une féminité stéréotypée. On est dans la surenchère, dans le kitsch, presque dans l'ironie. Et dès lors, ce que nous montre le générique, ce sont des femmes à la féminité construite, contemplant des images d'une construction de la masculinité. Et à cet effet de miroir contrastant, forçant déjà le spectateur à aiguiser son œil, s'ajoute l'obsédante trame sonore qui répète en boucle « this is the way that we live ». Et alors, on ne sait plus très bien ce qu'est « this » et qui est « we ». Ainsi, ce n'est jamais de manière anodine que l'art est convoqué dans The L Word. Il ne se contente pas d'être, il fait toujours quelque chose. Et les photographies d'Opie ne sont que la pointe de l'iceberg. La chanson de la trame sonore, les artistes invités à se produire dans le fameux The Planet, qui est un café-bar dans la série, les personnages politiques auxquels la série réfère, tous les artistes que Beth fera venir aussi ici, tous jouent un rôle sur la grande scène artistique et politique queer contemporaine. Ces micro-apparitions font office de contre-dispositif. Elles sont ces images lucioles ouvrant un espace interstitiel, intermittent, nomade, improbablement situé, des ouvertures, des possibles, des lueurs, des malgré tout, pour parler encore une fois avec Didier Berman. Elles créent donc des espaces de résistance. Elles se refusent à l'homophobie, mais aussi au sexisme et à la toute-puissance des hommes dans les milieux les plus influents, et elles clignotent durant 6-16 ans et se rendent disponibles à qui voudrait les faire signifier. Dans la première saison, donc, parmi la multitude de ces trames sonores, de ces trames narratives exploitées, celle entourant le travail de Beth, comme je vous disais, permet de jeter un regard critique sur les relations entre art et pornographie, ce qui permet justement aux téléspectateurs qui n'auraient pas l'œil assez aiguisé pour percevoir tous ces clignotements en trame de fond, de se positionner clairement sur la problématique. L'exposition Provocation que Beth réussit à faire venir aussi ici permet de souligner à gros traits les problématiques que soulèvent les questions de nudité, d'obscénité, de blasphème et de pornographie dans l'art. Donc, Beth insistera beaucoup auprès de son musée pour présenter Provocation, une série de peintures quand même, ou de photos plutôt controversées, qui va soulever l'ire des communautés religieuses du coin. Et donc, Beth aura à aller se défendre contre Faye Buckley, la leader d'un groupe religieux, sur la teneur artistique des œuvres présentées. Et plus que l'exposition elle-même, c'est le débat qui va m'intéresser aujourd'hui. Et pour bien comprendre ce que je veux vous montrer, je vais vous montrer le dernier extrait, je crois, de la soirée.
Oui.
Qui présente Bette contre son opposante. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques minutes avant le débat, Bette va apprendre que la fille de Buckley, son opposante, est une adolescente fugueuse prise dans l'univers de la prostitution et de la pornographie.
Je peux y aller avec le quatrième.
Are you in fact betraying the public trust?
On the contrary, George, I'm trusting the public. And what gives me the right to decide what you can and can't see? I'm no more entitled than Miss Buckley is to decide for you what's going to uplift and enlighten you.
Oh, there she goes again with that liberal duck and parry. It's just plain bad faith to promote an agenda the way this art show does and then claim no responsibility for the immoral behavior it encourages.
Art is meant to be perceived and interpreted. It doesn't intrinsically advocate behavior.
How can you say you're not advocating behavior? Your whole purpose is to make that lifestyle appear normal so that more people will want to try it.
If I were trying to convert people to my lifestyle, as you seem to be implying, Miss Buckley, do you really think I'd do it by using images of a man flaying himself and trussing up his testicles? That piece makes me so uncomfortable, I can barely look at it. I don't think it's going to make anyone want to become a lesbian.
She thinks she's clever enough to trick the rest of us into believing that filth isn't filth. Blasphemy isn't blasphemy. Pornography is not pornography, but the stuff speaks for itself. And however hard she tries to defend it, with her fancy language and her insulting logic, all it is sheer, disgusting, filthy, ugly pornography. She is a pornographer.
I understand why Miss Buckley is so sickened by the porn industry, I do. And it's brutal, especially for the poor children and teenage girls who get lured in and exploited, all because they were running away from something. Those children lacked love. They were abused. And how awful it must be to come from a home life so desperate. There is a world of difference between complex, provocative art and the tragedy of the porn industry.
May I ask what's in the box? Does it somehow relate to our discussion?
Do you believe in God, Bette?
I don't see
because
what that...
Because if you did, this wouldn't be complex. You see, God has already done the work of sorting through all of this for us. Faith makes seemingly complex things simple and obvious.
God is about the most...
The Bible condemns homosexuality. That's why God took your unborn child from your lesbian lover. And that was a blessing. That baby is with him now. So he doesn't have to suffer the degradation he would have been subject to had he been born into your depraved life.
Qui a encore été, il y a la montée de Rufus. C'est bon. Donc, vous l'avez vu, le montage présente une alternance continuelle entre des moments du débat entre Bette et Faye et des scènes de prostitution de la fille de Buckley, ce qui force le téléspectateur à tracer une ligne ferme entre l'exploitation psychologique et sexuelle des jeunes femmes par l'industrie de la pornographie et la force réflexive et critique de la posture d'artiste visuel explorant les questions de genre et de sexe. Cette conclusion à toute la saga qui se déploie durant toute la saison pose une forme de morale. Ce n'est pas le sexe lesbien qui est obscène ou pornographique. C'est l'abus fait des jeunes filles dans la pornographie au profit d'hommes hétérosexuels qui les consomment. Mais cette scène, à mon sens, présente davantage que ce premier niveau d'interprétation. Alors que Faye attaque directement Bette sur le plan personnel en convoquant la fausse couche de Tina, sa conjointe, Bette décide de ne pas l'attaquer en se servant de la vidéo porno de sa fille. Elle reste silencieuse jusqu'à la fin, malgré la douleur que cela lui inflige. Et à mon sens, par cette résilience, elle gagne le débat. Parce qu'alors vraiment, quelque chose se transmet aux téléspectateurs. Agaben souligne que seule une puissance qui peut aussi bien la puissance que l'impuissance est alors puissance suprême. Bette se place dans cette puissance suprême. Elle participe à un débat, son objectif est d'attaquer l'autre, mais elle ne le fera pas. Elle est en puissance de par la reconnaissance de la porno tournée par la fille de Faye Buckley. mais elle préfère ne pas donner à son adversaire les arguments qu'elle désire. Faire un petit clin d'œil à la figure de Bartleby. Ainsi, tous les exemples que je vous ai dessinés aujourd'hui vont dans le même sens. La série paraît constamment rappeler à son spectateur que le portrait qu'elle brosse d'une communauté lesbienne ne devrait pas être pris à la lettre, comme un documentaire authentique ou authentifié d'un groupe méconnu et invisible, les lesbiennes. Au contraire, la série, malgré les contraintes et les pressions commerciales qui l'accablent, réussit à se positionner politiquement face à l'hétéronormativité écrasante de l'univers télévisuel tel qu'il existait au moment de sa mise en onde. Elle ne se plie pas à reproduire un regard hétérosexuel et normatif. Elle en expose plutôt la mécanique, afin de mieux la démonter et d'en défaire la toute-puissance. Dale Bird n'oublie jamais qu'elle est un produit culturel. La série rappelle sans relâche à son spectateur qu'elle n'est que représentation, une forme de fantasme de la réalité. Dans une autoréflexivité déconcertante, Dale Bird s'inscrit dans la société du spectacle pour faire détraquer, en quelque sorte, la machine de l'intérieur. Semblant directement répondre à l'assomption d'Agamben, qui rappelle que le spectacle contient encore quelque chose comme une possibilité positive qui peut être retournée contre lui. Et au-delà de la myriade de contre-dispositifs mis à l'œuvre dans la série et dont je n'ai ici brossé que l'aperçu, je crois que le personnage de Jenny porte à lui seul cette positivité de retournement. Jenny sera celle montrant le spectacle. Vers la dernière saison, Jenny écrira « Les Girls », autofiction de son arrivée dans la communauté de West LA, roman qui sera ensuite adapté pour être porté au grand écran. Cette sorte de méta-autofiction sera l'ironie finale mise en œuvre par la série, ironie qui conduira au sacrifice de Jenny, qui jouera le jeu du spectacle jusqu'au bout, jusqu'à le retourner contre elle, dans une autodestruction totale. Il n'y a pas une seule coupable du meurtre de Jenny, elle est offerte en sacrifice par une collectivité, par une communauté. Et par son retour dans l'eau initiatique de la piscine, elle n'est pas exclue de cette communauté. Au contraire, elle y est ramenée, après s'être égarée dans les méandres d'une société de consommation culturelle. Elle est arrachée au dispositif qui la déterminait. Son meurtre la profane. Le générique qui clôt les 6 saisons montre bien que Jenny réintègre la communauté qu'elle avait trahie par l'écriture de Les Girls. Les femmes de Dale Bird marchent main dans la main, tout sourire, plus rayonnantes et sexy que jamais. Elles accueillent immédiatement Jenny en leur cercle et, unies par leurs mains, elles font face aux téléspectateurs. Elles marchent à lui, elles marchent sur lui, comme une armée anonyme, une longue chaîne humaine. Et jusqu'aux dernières minutes de la série, les femmes de Dale Bird nous rappellent qu'il nous faut résister aux projecteurs omniprésents de notre société. Il nous faut être vigilants et s'exercer à voir, dans les produits culturels dont elles nous saturent, les images lucioles qui apparaissent malgré tout et qui, dans leur multiplication, deviennent plus lumineuses que toute forme d'oppression culturelle. Bon, j'ai parlé de Dale Bird avec vous ce soir, mais j'aurais aussi pu prendre des exemples de la série, comme je vous disais, Orange is the New Black, mais pour la démonstration que je voulais faire avec vous ce soir, j'ai l'impression que j'avais besoin d'entrer en profondeur dans un seul objet et d'en faire l'exploration complète. Et très bellement, j'ai choisi mon propre coup de cœur. Dale Bird est une série que j'ai beaucoup écoutée à chaque fois que je la faisais découvrir à quelqu'un de nouveau. Disons que c'est par elle et par l'analyse que j'en ai fait que j'en suis arrivée à mon sujet d'étude actuelle. Alors j'ai l'impression que je lui en dois beaucoup. Et pour remettre des mots quant à ma première fascination pour Madonna et son nom de Madone, je crois que le mainstream et l'univers de la pop me fascine lorsqu'il devient le lieu de l'ironie et du débordement. Donc, je vais m'arrêter ici. C'est à votre tour. Voilà. Merci.